Deutsche Welle. Vue d'Allemagne. Un crâne par-ci, un tibia par-là. En Allemagne, il n'est pas rare de faire des découvertes de la sorte lorsque l'on se promène dans les caves des universités ou dans les couloirs des archives des instituts de recherche. Selon une enquête de l'ARD, la chaîne publique allemande, plus d'un millier de crânes et d'ossements d'Africains amenés en Allemagne pendant la période coloniale sont encore stockés dans la capitale allemande. Un héritage dont Berlin se passerait volontiers. Le Maroc, lui, redécouvre au contraire son héritage juif. Notre correspondante sur place nous en dira plus. C'est Constance Wünkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous. African thriller, vous connaissez peut-être l'expression « avoir un cadavre dans le placard » que l'on emploie lorsque quelqu'un a dans son passé un scandale, une affaire peu avouable qu'il ne tient pas à divulguer. En allemand, l'expression existe aussi, sauf que l'on dit « eine Leiche im Keller haben », avoir un cadavre dans la cave. À peu d'os près, c'est ce que le reporter Markus Frenzel a découvert en 2008 lors de ses recherches pour la chaîne ARD. Une douzaine de crânes dans les archives de l'université de Fribourg, près de 50 à l'Institut de recherche de la Charité, le grand hôpital de Berlin. La majorité de ces restes provenaient de l'actuelle Namibie, qui autrefois faisait partie du sud-ouest africain, colonie allemande jusqu'en 1915. Cette fois, Markus Frenzel a découvert que plus d'un millier de crânes et d'ossements provenant du Rwanda et de Tanzanie, deux anciennes colonies allemandes, étaient encore stockés à Berlin, précisément dans un dépôt de la Fondation de l'héritage culturel prussien. Il nous raconte.
En fait, on a fait des recherches sur les crânes venant du Rwanda. C'était des expéditions organisées par des chercheurs allemands qui étaient là au Rwanda autour de 1907. Pour les recherches anthropologiques, ils ont ouvert les tombeaux. En fait, les gens qui habitaient là-bas ne voulaient pas aider. Ils n'avaient aucun intérêt de leur donner des squelettes et d'autres restes de leurs ancêtres. Donc, ils ont utilisé des enfants pour les chercher. Et pour les 60 crânes de Tanzanie, on peut assez clairement aussi reconstruire le contexte à l'époque. C'était surtout des rebelles, comment ils les appelaient à l'époque, donc des ennemis du Reich, qui ont été tués et qui après ont été décapités, envoyés en fait les ossements, les crânes à Berlin.
Pourquoi les Allemands ont transporté ces crânes et ces ossements à Berlin ?
Les Allemands ont fait la même chose qu'ont fait les Français, les Anglais. À l'époque, il y avait une science, ils appelaient ça science, qui se basait sur l'anthropologie. Et c'était une sorte de science des races. On voulait prouver que la race européenne était plus haut placée et que tous les autres continents seraient d'un niveau inférieur. Et donc, ils voulaient prouver par ces ossements la quantité du cerveau et des choses comme ça, qu'en fait les Africains étaient une race inférieure.
Les crânes et les ossements que vous avez trouvés sont stockés dans un entrepôt de cette Fondation de l'héritage culturel prussien qui gère donc les musées à Berlin. Comment a réagi cette fondation lorsque vous leur avez fait part de vos trouvailles ?
Ça m'a beaucoup étonné en fait. J'ai confronté plus ou moins le président de cette fondation et j'ai dit mais comment pourriez-vous justifier qu'il y a toujours ces crânes dans vos entrepôts ? Et lui, il avait dit je ne veux pas justifier, je ne peux pas justifier. J'ai aucun intérêt que ces ossements, ces crânes sont chez nous. On veut les retourner. On ne veut pas posséder cette sorte de crâne.
Et est-ce qu'il a expliqué ou est-ce que vous avez une explication sur le fait que ça dure si longtemps puisque la chute de l'empire colonial allemand, c'est il y a déjà plus d'un siècle?
Oui, en fait, le président, il avait expliqué pourquoi ça prend tellement de temps. Il disait que ce n'est pas évident et tout ça. Mais ça, c'est le point où je ne suis pas vraiment sur la même ligne de compréhension. Pour moi, ça prend beaucoup trop de temps. Nous, on avait trouvé des crânes déjà il y a 8 ans. C'était des crânes qui venaient de Namibie, une douzaine des crânes. Ça a pris 1-2 ans pour trouver vraiment tout le contexte de ces crânes. Après, ils ont été redonnés dans un acte étatique. Et donc, depuis 8 ans, on sait qu'en fait, cette question est une question clé de notre histoire. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment bougé.
Vous le disiez là, en 2011, effectivement, c'était la Charité, donc l'hôpital de Berlin, qui avait rendu une vingtaine de crânes à la Namibie. Qu'attendez-vous cette fois de vos découvertes?
La pression sur la Charité à l'époque était énorme et ça va être la même situation de nouveau maintenant sur la fondation Preußischer Kulturbesitz. Je crois que la situation est encore plus difficile pour eux parce que maintenant le chiffre est tellement énorme, 1003 crânes de Rwanda, dans un contexte, le minimum, c'est ce qu'on veut dire, c'est douteux, moi je crois plutôt criminel. Bien sûr, ça pèse lourd et donc ils doivent bouger, ils vont bouger, ça c'est sûr.
Bon à savoir par ailleurs pour ceux qui habitent à Paris ou qui y passeront avant le mois de mars, le Mémorial de la Shoah lance une exposition sur le premier génocide du XXe siècle, celui des Herero et des Nama dans le sud-ouest africain allemand. C'était entre 1904 et 1908. Le Mémorial de la Shoah qui vient par ailleurs de signer une convention de coopération avec les archives du Maroc. Objectif, faire connaître l'histoire de la communauté juive en Afrique du Nord et rendre ses sources accessibles au public. Un pas de plus vers la connaissance du judaïsme marocain, nous en parlons dans un instant. Revendiquer l'identité juive du Maroc et protéger ce patrimoine historique, voilà une volonté qui est de plus en plus forte dans le royaume depuis quelques années. Aujourd'hui, on ne compte plus qu'environ 2500 juifs marocains, dont beaucoup vivent à l'étranger. L'intérêt perceptible pour cette histoire méconnue semble partagé aussi par de jeunes générations d'Israéliens qui veulent en savoir plus sur leurs racines et le parcours de leurs parents ou grands-parents. C'est un reportage à Casablanca de Stéphanie Wenger.
Là, c'est une mezouza. À l'intérieur de cet étui que vous voyez, ce sont les tables de la loi. Qu'on embrasse quand on sort et qu'on embrasse quand on rentre.
Marocaine de confession juive, Fanny Mergui a quitté Casablanca en 1961 à l'âge de 16 ans. Comme elle, des milliers de juifs marocains sont partis s'installer en Israël, attirés par la promesse d'un Eldorado, encouragés par des mouvements qui souhaitaient créer un nouvel État. Mais au fil du temps, Fanny se pose des questions. Choquée par la violence, les guerres, elle remet aussi en cause la politique d'Israël envers les Palestiniens. Ses doutes vont l'amener à reconsidérer sa propre histoire et son pays natal. Elle décide de retourner vivre à Casablanca dans les années 90. Selon elle, il reste beaucoup de zones d'ombre sur le départ des Juifs marocains.
Bon, moi, tout mon parcours personnel, ça a été de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'étais traumatisée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma communauté, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes amis d'enfance, du jour au lendemain, disparaissent? Qu'est-ce qui s'est passé?
Aujourd'hui, il ne reste que 2500 juifs environ au Maroc. En 1948, avant la création de l'État d'Israël, ils étaient 300 000. Les conflits au Proche-Orient ont bien sûr poussé à ces départs. En Israël, les juifs marocains formeront pendant longtemps une des communautés les plus importantes. Pourtant, ils sont mal considérés, méprisés. Avec le Maroc, pour beaucoup, les liens continuent d'être forts. Aujourd'hui, cette identité est de plus en plus revendiquée par certains. Fanny Mergui y voit un progrès.
Il y a une partie de la population israélienne d'origine arabe qui est en train de se réapproprier la culture arabe. Et par conséquent, la part arabe de leur histoire et de leur personnalité. Et ça, la politique, heureusement la politique politicienne, n'a pas pu tuer cette culture-là, cette identité-là. C'est ça l'espoir de demain, pour moi. Pour qu'il y ait la paix, mais pas seulement la paix. C'est aussi aujourd'hui la lutte contre les intégrismes sous toutes leurs formes.
La communauté juive au Maroc est la plus nombreuse de tout le Maghreb. Les retours pour les vacances ou les pèlerinages sont fréquents. Le pays lui-même revendique de plus en plus cet héritage juif. Depuis 2011, la Constitution mentionne l'affluent hébraïque comme une source de l'identité marocaine. Explication de Zohor Reil, conservatrice du musée juif de Casablanca.
Alors là, en fait, c'est le préambule de la nouvelle Constitution du Maroc qui a été rédigée en 2011, qui mentionne l'élément hébraïque comme une partie intégrante de la culture marocaine et de l'identité culturelle plurielle du Maroc. D'autre chose, le musée est considéré comme le seul musée juif dans le monde arabe. C'est-à-dire aujourd'hui, quand même, le Maroc, il est considéré comme le seul pays arabo-musulman qui fait un travail très profond, un travail gigantesque sur l'identité juive de sa culture.
Kamal Ashkar est réalisateur. Il a voulu en savoir plus sur les Juifs qui ont quitté Tinrir, le village berbère de ses grands-parents. Il est donc parti à leur recherche en Israël. Cette quête, ces rencontres, il les a racontées dans un film, Tinrir Jérusalem. qui a été diffusée à la télévision marocaine. Un pas en avant, selon Kamal.
Une des raisons, c'était ça aussi, c'est que cette histoire-là, malheureusement, n'est pas enseignée à l'école, alors que la Constitution, aujourd'hui, reconnaît depuis 2011 la pluralité des identités marocaines. Voilà, maintenant, il faut passer des mots aux actes, c'est-à-dire si on veut préserver notre jeunesse des discours démagogiques, populistes, extrémistes, racistes, c'est qu'il faut enseigner aux Marocains que nous sommes pluriels, qu'il y a eu des chrétiens, qu'il y a des musulmans, des arabes, des andalous, enfin des sahraouis et des juifs, et donc ça fait partie intégrante de l'identité marocaine.
Kamal achève aujourd'hui son second film, il s'appelle « Retour au pays natal ». Il suit de jeunes Israéliens qui retournent au Maroc en quête de leurs racines. Enat Levy fait partie de cette troisième génération avide d'en savoir plus. Si sa famille a fait une croix sur son passé, elle apprend l'arabe à Tel Aviv et elle a visité plusieurs fois le Maroc depuis 2012.
C'est sûr, cette fois-ci, je peux dire que je connais le Maroc et que je reviens dans un endroit qui m'est familier. Je peux aussi reconnaître des parties de mon identité qui sont d'ici et qui ont toujours été là, en moi. Mais avant de venir ici, je ne pouvais pas le savoir. But before I came here,
I couldn't tell. Enat organise des voyages pour permettre à de jeunes Israéliens de découvrir le Maroc. Elle est aussi à l'origine d'un projet sur Facebook qui rassemble les archives nombreuses et éparpillées de la communauté juive marocaine. Pour elle, faire connaître cette histoire, c'est important pour l'avenir de son pays et de la région.
The past is good for the past, but if you do something, you need to look for the future and to think how it can.
Je pense que le passé, c'est bon pour le passé. Mais si on veut faire quelque chose, on doit regarder vers l'avenir et imaginer ce qu'il peut apporter. Au présent d'abord, et notre futur ensuite. Ce que l'on voit ici, ça peut apporter beaucoup aux relations entre Israéliens et Palestiniens. On parle aussi de Juifs et de musulmans qui doivent bâtir un nationalisme qui peut être inclusif, ou en tout cas ouvert à d'autres identités, d'autres religions. Être capable de laisser cette logique d'affrontement pour commencer à s'entendre.
And changing the competition to something more they can get along with.
La renaissance de la communauté juive au Maroc, un reportage de Stéphanie Wenger, notre correspondante sur place. Un reportage que vous pouvez retrouver avec le reste du magazine sur notre site internet, rubrique médiathèque. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss. Until you make me dance. How sweet it can be.